À voir et à faire aussi, toujours dans le Lot, samedi, un safari, figurez-vous, un safari paléontologique, en fait, plus précisément. Et pour parler de ce rendez-vous avec nous par téléphone, Thierry Pélissier, qui est conservateur de la réserve naturelle nationale géologique du Lot. J'espère que j'ai rien oublié. Bonsoir Thierry.
Bonsoir.
Vous organisez donc ce safari paléontologique ce samedi. Ça se passe du côté des phosphatières du clou d'Oral. Hein. C'est entre l'Albinque et Limogne, à peu près dans le Lot. Qu'est-ce que c'est une phosphatière?
Une phosphatière, c'est une ancienne mine de phosphate, tout simplement. Et les mineurs, au 19e siècle, courageusement, ont vidé à coups de pelle et de pioche d'énormes cavités. À l'intérieur, il y avait pas mal de cailloux, pas mal d'argile, mais aussi du phosphate, ce qui les intéressait, et des ossements fossiles.
D'accord, donc c'est à l'occasion de cette mine qu'on a découvert, en creusant, qu'il y avait aussi des fossiles à cet endroit-là.
C'est-à-dire, oui, exactement. Les mineurs en ont détruit d'ailleurs beaucoup, parce que la plupart des fossiles partaient au bon cassage, mais sans leur activité, on n'aurait sans doute jamais découvert ces gisements-là. Donc, ma foi, le résultat est quand même très positif.
Oui, ce safari que vous organisez samedi, donc c'est un safari, mais souterrain, une mine, non?
Alors, la mine, une partie de la mine est à ciel ouvert, une partie est souterraine, mais concrètement, on fait participer les gens, en fait, on intègre les gens aux équipes scientifiques qui sont actuellement en train de travailler sur ces phosphatières, c'est-à-dire que on va les amener dans une phosphatière non aménagée, leur faire voir un petit peu comment on travaille sur les sites, comment on prélève, peut-être même leur faire prélever du sédiment et remonter des sacs d'ailleurs, après tout, s'ils sont intégrés à l'équipe, c'est jusqu'au bout,
ouais.
Et ensuite voir comment on traite ce sédiment, le tamiser, c'est eux qui vont tamiser, puis le trier, etc. Donc, comme le font les paléontologues qui passent chaque année, une partie du mois de juillet, au Kumaran pour travailler sur ces fossiles-là.
D'accord, alors c'est super pour nous, mais vous n'avez pas peur qu'on vous foute un peu le boxon, qu'on mette le pied sur un os d'Australopithèque unique au monde?
Non, alors, le site en question, bon, d'abord, le safari, c'est sur inscription, il faut le préciser, et le nombre de places est forcément limité parce qu'on ne peut pas accueillir des centaines de personnes en même temps. Donc, à la limite, il faut prendre son tour pour l'année prochaine si c'est complet cette année. Mais ça ne va pas mettre le boxon parce que simplement, les choses sont cadrées et on ne fait pas, quand on va descendre dans la fossatière, on va vraiment travailler de façon tout à fait rigoureuse et scientifique, puisque l'objectif, c'est vraiment, encore une fois, non pas de faire semblant, mais de s'associer à l'équipe et de travailler avec l'équipe.
Et donc, si tout va bien, avec un peu de chance de dégager des fossiles.
Alors, je pense quand même que pour le tri, notamment, ou pour le tamisage en général, gentiment, les paléontologues mettent de côté des sédiments où on a quelque chose, de trouver quelque chose. Mais bon, voilà, ça, c'est la surprise, sera peut-être au rendez-vous.
C'est samedi, hein, avec vous, donc, aux phosphatières du clou d'Oral, où vous étiez d'ailleurs cet après-midi pour travailler. Qu'est-ce qu'il y a comme fossile à cet endroit-là et de quand il date? Il y a du dinosaure?
Ah non, les dinosaures sont plus vieux. En fait, ce sont les fossiles qu'on trouve dans les phosphatières, ce sont des fossiles de l'ère tertiaire. Pour faire simple, disons, ils ont entre 50 et 20 millions d'années. Et concrètement, on trouve beaucoup de fossiles d'animaux tropicaux. Donc on va trouver du rhinocéros, de l'hippopotame, du lion, de l'antilope, des primates, comme les lémuriens de Madagascar aujourd'hui, ou le tarsier d'Asie du Sud-Est. On peut trouver du crocodile, des serpents, des oiseaux. Mais on peut aussi trouver des graines fossilisées, et ça c'est exceptionnel parce qu'elles sont momifiées en 3D, ainsi d'ailleurs que des insectes ou des millepattes ou des choses comme ça. Là aussi, ce sont des fossiles absolument uniques au monde. Alors c'est pas très gros bien sûr, mais concrètement, un type de fossilisation unique, hein, qu'on ne connaît nulle part ailleurs.
D'accord. Donc si je comprends bien, il y a entre 50 et 30 millions d'années, 20 millions d'années, les animaux, c'était les mêmes qu'aujourd'hui quoi.
Disons qu'ils se rapprochaient, ils appartenaient aux mêmes familles qu'aujourd'hui, mais ce ne sont pas du tout les mêmes espèces, d'une part. D'autre part, il y en a certains qui ont totalement disparu. Par exemple, on avait certains carnassiers qui ne sont pas des carnivores, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des espèces donc de choses qui n'existent plus aujourd'hui. Et dans les espèces actuelles, on a évidemment des choses qui n'existaient pas à l'époque. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les fossiles qu'on trouve dans les fossatières se rapprochent des espèces espèces qui aujourd'hui vivent sous milieu tropical. C'est-à-dire qu'à l'époque, le Quercy, c'était un milieu tropical. Jusqu'à 34 millions d'années à peu près, c'était même, on peut imaginer, une forêt tropicale humide, style le Congo aujourd'hui, pour se faire une idée. Mmh. Et ensuite, après 34 millions d'années, c'était devenu plutôt une savane relativement sèche qui pouvait évoquer le Kenya, par exemple, le plateau kenyan, ou bien parfois ça devenait même très, très, très sec et subdésertique. Et à ce moment-là, on se rapprochait du Sahel actuel. Donc voilà, c'est un voyage dans le temps et aussi un voyage dans l'espace, c'est parce qu'évidemment, on se retrouve dans des conditions qui ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui.
Mmh. C'est super, ça donne envie de venir fouiller avec vous samedi toute la journée. Hein. C'est toute la journée ce safari paléontologique que vous organisez ?
Donc on accueille deux groupes le matin, deux groupes l'après-midi, sachant que ces groupes vont passer demi-journée avec l'équipe de paléontologues.
D'accord, il y a besoin de prendre des dispositions particulières, soit sur l'habillement, les chaussures ou de l'équipement ?
La première chose à faire, c'est de s'inscrire, parce que je ne sais pas où sont les inscriptions, mais je pense que ça se remplit très vite. Il faut quand même en avoir conscience. Mais pour ceux qui viennent, il faut quand même prévoir des chaussures, disons, normales, mais pas des chaussures de grande randonnée.
Pas des tongs.
Pas des tongs, pas des sandalettes, non, il n'y en avait pas, parce qu'on va quand même descendre sous terre, une fossatière donc non aménagée. Prévoir peut-être juste une petite laine, parce qu'au fond de la fossatière, il fait frais, par les temps qui courent, c'est pas désagréable, mm-hmm. Mais bon, au bout d'un moment, on pourrait même avoir froid. Et puis, ne pas mettre sa dernière tenue du dimanche, parce que le tamisage avec des argiles rouges, ça peut parfois laisser des marques.
D'accord. Cette phosphatière du Clos d'Oral où est organisé ce safari paléontologique, là, samedi, c'est un endroit vraiment unique, particulier sur le Lot et même nos départements, la région Occitanie, ou c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres endroits que là ?
Les phosphatières, c'est un ensemble unique au monde. C'est même pas à l'échelle du département de l'Occitanie. Unique au monde par le nombre de gisements fossilifères, puisqu'on en a quasiment 200, par le nombre de fossiles qu'on y a trouvés, puisqu'il y en a à peu près 800 espèces répertoriées, par la durée de remplissage qui est de 30 millions d'années, tout ça c'est exceptionnel, et le tout sur une surface géographiquement limitée, puisque les phosphatières, on en a depuis Montricou dans le Tarn-et-Garonne, jusque grosso modo Marciac-sur-Célé dans le Lot, et ça fait une surface de seulement 6000 km² à peu près. Et ça, une telle concentration d'informations sur une durée aussi longue, dans une surface aussi réduite, il n'y a aucun autre équivalent au monde connu. Ça permet vraiment de voir une espèce de film où on voit l'écosystème quercinois qui évolue au cours du temps en fonction des changements environnementaux et notamment des changements du climat et comment la biodiversité arrive à s'adapter à des situations parfois compliquées.
Et il y a quelque chose qui explique cette concentration dans ce secteur ?
C'est à la loterie géologique de la succession des événements, le Quercy, donc essentiellement le sud du Lot et le nord du Tarn-et-Garonne, parce que le nord du Tarn-et-Garonne possède aussi beaucoup de phosphatières, cette région va donc tirer le gros lot, parce qu'il fallait vraiment une succession d'événements très particulière, il n'y a qu'ici qu'elle s'est réalisée.
Et les fouilles que vous organisez là au Clou d'Oral, elles sont aussi réparties sur l'ensemble de cette zone où il y a des endroits, vous savez qu'il y a du fossile, mais vous n'êtes encore jamais allé en chercher ?
Alors, il y a des endroits où on sait qu'il y a du fossile et on revient en chercher parce qu'on a besoin d'améliorer la connaissance de ce gisement-là. Si on n'en a pas besoin, on laisse les fossiles tranquilles. Après tout, ils sont très bien là où ils sont. Par contre, chaque année aussi, on va explorer de nouveaux gisements. Alors, quand je dis nouveaux, ils étaient connus évidemment des mineurs puisqu'ils les ont exploités. Mais par contre, ils étaient tombés dans l'oubli et chaque année, on retrouve comme ça quelques sites avec parfois des surprises et de très, très belles surprises. Et ces dernières années, chaque campagne de fouille nous a apporté de belles découvertes totalement inattendues. À tel point d'ailleurs que toutes ces phosphatières du sud du Lot sont classées en réserve naturelle nationale. Mais je pense aussi que côté Tarn-et-Garonne, on pourrait faire la même chose. Il y a de quoi, il y a largement de quoi faire une réserve naturelle nationale similaire à celle du Lot dans le Tarn-et-Garonne.
Ah. Ça serait une piste à creuser. On sent que ça vous seriez prêt à remplir le dossier si ça tenait qu'à vous.
Si ça tient qu'à moi, je remplis le dossier, je fournis tous les éléments dont je dispose. Ça suffira peut-être pas, mais il y en aura déjà pas mal. Oui.
Vous avez parlé de découvertes, donc on peut, avec beaucoup de chance évidemment, faire vraiment des découvertes scientifiques, on peut dire ça, dans ces phosphatières ?
Oui, on fait des découvertes scientifiques. tout à fait. Alors, elles peuvent être la découverte, ça peut être la découverte de nouvelles espèces qui n'ont jamais été décrites pour la science. Ça, c'est relativement fréquent. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai des 800 espèces, mais en fait, chaque année ou presque, la liste s'allonge parce qu'on fait de nouvelles découvertes. C'est des choses qu'on connaît ailleurs, mais qui sont moins bien préservées. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des insectes et des graines. Bon, des insectes et des graines, on en connaît ailleurs, mais c'est complètement aplati, écrasé, alors que là, c'est conservé en trois dimensions, et même, elles sont actuellement étudiées par une équipe allemande avec le synchrotron, c'est-à-dire une espèce d'IRM spéciale pour les cailloux, si je puis dire. Et concrètement, à l'intérieur, ben, y a tout, il y a tous les organes qui sont conservés, et ça permet de connaître l'anatomie des insectes, de voir comment ils ont évolué. On a même des exemples de parasitologie, là, c'est une découverte toute récente, avec des guêpes qui allaient pondre leurs œufs dans les larves de mouches et qui s'est développé au détriment des larves de mouches. Alors, retrouver ça 40 millions d'années plus tard, c'est quand même assez extraordinaire.
Et Thierry Pélissier, il y a un endroit où le public peut venir voir tous ces fossiles ?
Alors, pour voir les fossiles actuellement et avoir des informations sur les fossatières, ben, le site qui est aménagé, c'est la fossatière du Club Noral, donc à Bâche, entre l'Albinque et Limogne. C'est vraiment le site qui présente tout ça, qui est la vitrine de la réserve géologique, d'ailleurs avec des aménagements tout récents qui ont été faits, qui permettent de visiter de façon beaucoup plus confortable qu'auparavant, et également des projets, mais ça sera une échéance de quelques années, 4-5 ans sans doute, de muséographie sur site, de scénographie sur site aussi, donc un site qui est en plein développement, dans le cadre d'ailleurs du Géoparc mondial UNESCO, dont bénéficie le parc naturel régional des Côtes du Quercy.
Très bien, donc il y a ce rendez-vous samedi, hein. Pour les chanceux les plus rapides qui pourront s'inscrire et participer à ce safari et paléontologique le matin et l'après-midi. C'est la seule chance cet été ou vous allez proposer d'autres rendez-vous du même type ?
Alors, c'est la seule chance cet été parce qu'on profite de la présence des paléontologues sur site pour vraiment associer le public. Mais après, bon, les paléontologues, ils sont là aussi pour des travaux, disons, qui nécessitent une plus grande concentration. Donc, on peut pas faire ça tous les jours. Par contre, il y a des animations, bon, des animations plus ponctuelles, qui sont faites notamment pour les enfants, avec des ateliers, justement, de tamisage ou de tri, des choses comme ça, mais qui sont vraiment plus ponctuelles et à direction des jeunes... les jeunes, disons, à partir de 7-8 ans, quoi. Voilà.
Très bien, merci beaucoup Thierry Pélissier, c'était passionnant cette petite découverte des phosphatières, donc du clou d'Oral en particulier. Il parlait de ces sujets, j'aurais bien fait géologue ou paléontologue, mais j'étais pas assez bon à l'école, bah. Bon, enfin voilà.
Ah, ouais, c'est plus une histoire de passion que de niveau scolaire.
Ah. Merci beaucoup en tout le cas d'avoir été avec nous quelques minutes ce soir sur CFM. Rendez-vous samedi donc pour ce safari et sur CFM très bientôt, j'espère.
Merci à vous, au revoir.